Deuxième partie. Suzanne. Chapitre 1. Sous la lune des baisers. 1. Un disque d'argent parfait, la lune des baisers, comme on l'appelait pendant la pleine terre, dominait la colline d'Échiqueté qui se trouvait à 2 lieues à l'est d'Ambry et à 4 au sud de Veru Canyon. Au pied de la colline, la chaleur de cette fin d'été persistait, encore suffocante 2 heures après le coucher du soleil, mais au sommet du chaos, on aurait dit que la moisson était déjà venue, avec ses fortes brises et son air glacial qui pinçait. Pour la femme qui vivait là, en seule compagnie d'un serpent et d'un vieux chat qui ne miaulait plus, la nuit promettait d'être longue. Aucune importance, cependant, aucune importance, ma chérie. Des mains qui s'activent sont des mains bien heureuses. C'est le cas d'Étienne. Assise à la fenêtre de la grande pièce de sa masure, une autre de la taille d'un placard lui servait de chambre, elle attendit tranquillement que le bruit des sabots des chevaux de ses visiteurs s'évanouisse. Moisi, le chat à 6 pattes, était perché sur son épaule. Le clair de lune inondait son giron. 3 chevaux emportant 3 hommes, les grands chasseurs du cercueil, tel était le surnom qu'ils se donnaient. Elle émit un ricanement de mépris. Les hommes étaient de drôles d'animaux, pour ça oui, et le plus amusant de tout, c'était qu'ils en avaient si peu conscience. Les hommes et les non-bravaches dont ils s'affublaient pétant plus haut que leur ceinture. Les hommes, si fiers de leurs muscles, de leur capacité à boire et à baffrer, fiers à n'en plus finir de leur queue. Eh oui, même en ces temps où nombre d'entre eux répandaient une étrange semence dégénérée, donnant naissance à des rejetons tout juste bons à être noyés dans le premier puits venu. Ah, mais c'était jamais de leur faute, n'est-ce pas, ma chérie? Non, c'était toujours la femme, la fautive, et sa matrice, bien sûr. Les hommes étaient de tels couards et de tels grimaciers. Ces 3-là ne se distinguaient point de la masse. Le plus vieux, qui claudiquait, pouvait soutenir votre regard, sûr qu'il pouvait, avec sa paire d'yeux clairs à l'extrême, qu'il avait scruté de la tête aux pieds. Mais elle n'avait rien décelé en eux dont elle n'aurait pu venir à bout s'il avait fallu en arriver là. Les hommes. Elle n'arrivait point à comprendre pourquoi tant de femmes les redoutaient. Les dieux ne les avaient-ils pas créés avec leur partie la plus vulnérable pendouillant hors du corps comme un boyau qui n'aurait point trouvé sa place dans leurs entrailles? Flanquez-leur là un bon coup de pied, ils se recroquevillent comme un escargot dans sa coquille. Caressez-les là, et leur cervelle fond en capilotade. Quiconque mettait en doute la vérité de cette dernière assertion n'avait qu'à assister à sa seconde affaire de la nuit, celle encore à venir, Thorin, le maire d'Ambry, gardien-chef de la baronnie. Aucun fou n'arrivait à la cheville d'un vieux fou. Cependant, aucune de ses pensées n'exerçait de réel pouvoir sur elle, ni ne recelait de réelle rancune contre eux, du moins pas pour le moment. Les 3 hommes qui se baptisaient les grands chasseurs du cercueil lui avaient apporté une merveille, et elle voulait la regarder, s'en emplir les yeux si faits, et elle n'allait pas s'en priver. Le bancroche, Jonas, avait insisté pour qu'elle serre la chose de côté. On lui avait dit qu'elle avait un endroit pour ça. Non pas qu'il veuille le voir ni nul autre de ses endroits secrets, à Dieu ne plaise, à cette boutade de pape et Reynolds s'étaient esclaffés comme des baleines, et elle avait obtempéré. Mais maintenant que le vent avait emporté le bruit des sabots de leurs chevaux, elle ferait comme bon lui chanterait. La fille, dont les seins avaient dérobé à Hart Thorin le peu de jugeote dont il jouissait, ne serait pas ici avant 1 heure, à tout le moins. La vieille avait tout fait pour que la fille vienne à pied de la ville, prétextant la valeur purifiante d'une petite marche au clair de lune, alors qu'elle voulait simplement se ménager une parenthèse de temps libre entre 2 rendez-vous. Pendant cette heure-là, elle serait libre d'agir à sa guise.
« Oh, c'est de toute beauté, je suis sûr, » murmura-t-elle.
Mais ne ressentait-elle pas un certain échauffement au point de jonction de ses jambes torses d'ancêtre? Et une certaine humidité dans la rivière à sec qui était enfouie.
Oh Dieu, si fait, même au travers du coffret où ils l'ont caché, je sens son gamme. Beau comme toi, Moisi.
Elle attrapa le chat perché sur son épaule et le tint à hauteur de ses yeux. Le vieux matou ronronna en étirant son nez camus vers elle. Elle le baisa, et d'extase, il ferma ses yeux d'un verre de gris laiteux.
« Beau comme toi, 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 oui !»
Elle reposa le chat par terre. Il se dirigea lentement vers l'âtre où paraissait un feu tardif, grignotant de façon décousue une bûche solitaire. La queue de moisie, au bout fourchu comme celle d'un diablotin dans une vieille gravure, balançait de ci de là dans la pénombre orangée de la pièce. Ses pattes supplémentaires, pendillant sur ses flancs, se crispaient rêveusement. Son ombre, qui traînait sur le sol, projetait sur le mur une véritable horreur, le résultat du croisement d'un chat et d'une araignée. La vieille se leva et gagna le placard où elle dormait et où elle avait rangé la chose que Jonas lui avait donnée.
« Si jamais tu la perds, tu perdras la tête !»
lui avait-il dit.
« N'aie crainte, mon bon ami, » avait-elle répondu, lui adressant un sourire servile et craintif par-dessus son épaule, tandis qu'elle songeait. « Ah, les hommes, quel vantard ils faisaient !»
Se dirigeant vers le pied de son lit, elle s'agenouilla et passa la main sur le sol de terre battue. Des lignes apparurent, formant un carré dans la poussière moisie. Elle enfonça ses doigts dans l'un de ses traits, qui céda sous la pression. Soulevant la trappe secrète, dissimulée de telle sorte que quiconque dénué de son shining aurait été bien en peine de la découvrir, elle mit au jour une cache d'un pied de côté sur deux de profondeur. À l'intérieur se trouvait un coffret en bois de fer, avec levé sur le couvercle un serpenteau vert. Quand elle lui frôla l'échine, il redressa la tête et sa gueule, bâillant en un sifflement silencieux, exhiba quatre paires de crocs, deux en haut, deux en bas. Elle prit le serpent contre elle avec des roucoulades. Comme elle approchait sa tête plate de son visage, le reptile ouvrit plus grand la gueule et son sifflement devint audible. Ouvrant la bouche à son tour, elle darda d'entre ses lèvres grises et flétries la paillasse jaunâtre et malodorante de sa langue. Deux gouttes de venin qui auraient suffi à exterminer tous les convives d'un festin si on les avait ajoutées au bol de punch y tombèrent. Elle les avala, sentant aussitôt sa bouche, sa gorge et sa poitrine prendre feu comme sous l'effet d'une liqueur forte. Un instant, la pièce devint floue et dansante, puis elle entendit des voix murmurer dans l'air en puantille, les voix de ceux qu'elle appelait « ses amis invisibles ». Ses yeux laissèrent filtrer une eau poisseuse qui s'écoula dans les tranchées que le temps avait creusées sur ses joues. Elle poussa alors un profond soupir, et la pièce retrouva sa stabilité. Les voix s'éteignirent. Elle baisa Hermot entre ses yeux sans paupières.
« C'est la lune des baisers, si fait !» se dit-elle.
Puis le posa de côté. Le serpent se faufila sous sa couche, s'y leva, et la regarda appliquer ses paumes sur le couvercle du coffret en bois de fer. Elle sentait palpiter les muscles de ses avant-bras et la chaleur au creux de ses reins devint plus prononcée. Cela faisait moult années qu'elle n'avait pas éprouvé l'appel de son sexe, mais elle l'éprouvait à présent, pour sûr, et ce ne fut pas le fait de la lune des baisers, ou si peu. Le coffret était fermé, et Jonas ne lui en avait pas donné la clé, mais c'était un jeu d'enfant pour elle qui avait vécu longtemps, étudié beaucoup et trafiqué avec des créatures que la plupart des hommes, malgré leur rodomontade et leurs belles paroles, auraient fui comme la peste, à peine les eussent-ils entrevues. Elle tendit la main vers la serrure incrustée dans un œil que surmontait une devise en haut-parlé. « Qui m'ouvre, je le vois ?» Puis la retira bien vite. Tout à coup, elle flaira ce que son odorat ne percevait plus d'ordinaire. Le moisi, la poussière, le matelas crasseux, les miettes des provisions grignotées au lit, la puanteur qui mêlait la cendre au renondançant et à l'odeur d'une vieille femme aux yeux chassieux et à la chatte desséchée. En temps normal, du moins. Elle n'ouvrirait point ce coffret, ni ne regarderait la merveille qu'elle renfermait ici dedans. Elle irait dehors, à l'air pur, où les seuls parfums étaient ceux de la sauge et du mesquite. Elle contemplerait la merveille à la clarté de la lune des baisers. Réa de la colline du Keurhaus tira le coffret de sa cache avec un grognement, se remit sur pied avec un autre grognement, extrait celui-ci de ses régions inférieures, et quitta la pièce, le coffret sous le bras. 2. La masure était suffisamment renfoncée sous le front de la colline pour être à l'abri des bourrasques les plus âpres du vent d'hiver qui soufflaient en permanence sur ces hautes terres depuis la moisson jusqu'à la fin de la terre vide. Un sentier menait au point le plus élevé et le plus dégagé de la colline. Sous la pleine lune, on aurait dit un fossé d'argent. La vieille le gravit, peinant et soufflant. Ses cheveux blancs auréolaient sa tête en touffes crasseuses, ses vieilles mamelles ballottaient de ci de là sous sa robe noire. Le chat la suivait dans son ombre, sans cesser d'exhaler son ronronnement rauque comme une mauvaise odeur. Au sommet de la colline, le vent, écartant ses cheveux de sa figure ravagée, lui apporta le murmure plaintif de la tramée qui s'était peu à peu frayé un passage jusqu'aux confins de Vero Canyon. C'était un son apprécié de peu de monde, elle le savait, mais que personnellement elle adorait. Pour Réa du Chaos, il évoquait une berceuse. Au-dessus de sa tête filait la lune dont les ombres sur sa peau brillante dessinaient le visage de deux amants qui s'embrassaient, si l'on croyait toutefois aux balivernes des crédules mortels. Si ces derniers voyaient un visage différent ou une série de visages dans chaque pleine lune, la sorcière savait qu'elle n'en avait qu'un, le visage du démon, le visage de la mort. Cependant, pour sa part, elle s'était rarement sentie aussi vivante.
« Oh, ma beauté !» murmura-t-elle en effleurant la serrure de ses doigts difformes.
Une faible lueur rouge filtra d'entre ses phalanges réunies, et il y eut un cliquetis. Haletant comme une femme qui vient de courir, elle déposa le coffret par terre et l'ouvrit. Une lumière rosée, plus ténue que celle émise par la lune des baisers, mais infiniment plus belle, se répandit. Envahissant le visage ravagé, penché sur le coffret, elle le métamorphosa un court instant en celui d'une très jeune fille. Moisie vint renifler, allongeant la tête, les oreilles couchées, ses vieilles pupilles frangées de lumière rose. Réa en conçut une jalousie subite.
« Du balai, vieux sot! C'est point pour tes pareils !» Elle tapa le chat.
Moisy fit un bond en arrière, sifflant comme une bouilloire, et gagna avec majesté et indignation le tertre qui couronnait la colline de Keurhaus. Affectant le dédain le plus absolu, il s'y installa et entreprit de se lécher une patte tandis que le vent lui fourrageait sans cesse le poil. Le coffret contenait un globe de cristal plein de cette lumière rosée. Elle ruisselait en pulsations douces comme les battements d'un cœur content.
« Oh, ma beauté !»
murmura-t-elle, le soulevant hors du coffret. Elle le tint devant elle, laissant son rayonnement pleuvoir sur les rides de son visage.
« Oh, tu es vivant, si fait !»
Soudain, la couleur du globe fonça jusqu'à l'écarlate. Elle le sentit vibrer entre ses mains, comme un moteur d'une puissance énorme. Et encore une fois, éprouva cette stupéfiante humidité entre ses cuisses, cette montée de la marée qui l'avait désertée pour toujours, croyait-elle. Puis, la vibration mourut, et la lumière du globe parut se replier comme autant de pétales. Une pénombre rosâtre lui succéda, et trois cavaliers en sortirent. Elle crut d'abord qu'il s'agissait des hommes qui lui avaient apporté le cristal, Jonas et les autres. Mais non, ceux-ci étaient plus jeunes, bien plus jeunes même, que deux papes qui n'avaient pourtant que 25 ans. Celui qui était à gauche du trio semblait avoir un crâne d'oiseau monté sur le pommeau de sa selle. Étrange, mais vrai. Puis ce dernier et celui de droite disparurent, comme effacés par le pouvoir de la boule de cristal qui ne laissa visible que celui du milieu. Il portait un jean et des bottes, un chapeau à bord plat qui lui mangeait le haut du visage, et elle remarqua la façon dégagée qu'il avait de se tenir en selle. Aussitôt alarmée, sa première pensée fut « Un pistolero !» Dans l'Est, venu des baronnies intérieures, si fait, de Gilead peut-être même. Mais elle n'avait pas besoin d'apercevoir le haut du visage du cavalier pour savoir qu'il était à peine plus âgé qu'un enfant et n'avait pas de revolver sur les hanches. Elle ne croyait cependant pas que l'adolescent soit désarmé. Si seulement elle pouvait voir un petit peu mieux. Collant quasiment le nez sur le cristal, elle chuchota « Plus près, mon joli, encore plus près !» Elle ne savait à quoi s'attendre. À rien, c'était le plus probable. Pourtant, au cœur du cercle sombre du globe, la silhouette s'approcha effectivement, flotta plus près, comme un cavalier et son cheval sous l'eau. Et elle aperçut un carquois et des flèches dans son dos. Devant lui, sur le pommeau de sa selle, il n'y avait pas de crâne, mais un arc court. Et à droite de la selle, là où un pistolero aurait transporté un fusil dans sa housse, on voyait pointer le bois hérissé de plumes d'une lance. S'il n'appartenait pas au vieux peuple, dont son visage n'avait aucun trait distinctif, elle ne pensait pas non plus qu'il soit originaire de l'arc extérieur. « Mais t'es qui, toi, mon goujat ?» souffla-t-elle. « Comment je vais faire pour te reconnaître, moi ? T'as tellement enfoncé ton chapeau sur des saletés d'yeux que je peux point me les voir. À ton cheval, peut-être bien. Ou alors à ton... du balai, moisi. Qu'est-ce que t'as à m'embêter comme ça ? Trin !» Le chat, redescendu de son poste de guet, s'enroulait autour de ses chevilles enflées, passant et repassant, miaulant dans sa direction d'un ton encore plus rauque que son ronronnement. Quand la vieille lui donna un coup de pied, Moisy l'évita avec agilité, puis revint immédiatement à la charge et, reprenant son manège, leva vers elle des yeux lunatiques en redoublant de doux miaulements. Réa lui redonna un coup de pied qui s'avéra aussi peu efficace que le premier, puis replongea son regard dans le globe de cristal. Le jeune cavalier si intéressant et sa monture avaient disparu, tout comme la lumière rosée. Elle ne tenait plus qu'une boule de verre éteint qui, en fait de lumière, se contentait de refléter le clair de lune. Le vent souffla en rafale, plaquant sa robe contre la ruine de son corps. Moisy, que les faibles ruades de sa maîtresse avaient échoué à intimider, fila de rechef comme une flèche et s'enroula autour de ses chevilles, miaulant plaintivement à son adresse.
« Là, regarde un peu ce que tu as fait, vilain sac à puce et à microbes. La lumière est partie, juste au moment où je... »
À un son en provenance du chemin Chartier qui montait jusqu'à sa masure, elle comprit soudain d'où venait l'agitation de Moisy. Elle entendait chanter. C'était la fille. Elle était en avance. Avec une horrible grimace, elle détestait être prise au dépourvu, et la donzelle allait le payer cher, elle se baissa et renferma la boule de cristal dans le coffret. L'intérieur était rembourré de soie, et le globe s'y emboîtait aussi parfaitement que l'œuf du petit déjeuner de sa seigneurie dans son coquetier. Du bas de la colline, ce maudit vent était dans son tort, sinon elle l'aurait entendu plus tôt, montait le chant de la fille, plus proche que jamais. « Amour, oh l'amour, l'amour insouciant, vois ce qu'amour a fait, négligemment. Je vais t'en donner, moi, de l'amour insouciant, saloperie de pucelle !» commenta la vieille. Elle sentait l'aigre remugle de sueur sous ses bras, mais l'autre moisissure s'était à nouveau tarie. Je vais te ficher ton congé pour être venu trop tôt chez la vieille Réa. Tu perds rien pour attendre. Elle passa ses doigts sur la serrure du coffret, mais elle refusa de se verrouiller. Elle supposa qu'elle s'était trop pressée de l'ouvrir et avait cassé un mécanisme intérieur en se servant du Shining. L'œil et sa devise semblaient la narguer. « Qui m'ouvre, je le vois. » On pouvait y remédier et en un clin d'œil, mais pour l'heure, un clin d'œil, c'était encore trop long pour elle. « Impertinent pécor !» gémit-elle, levant brièvement la tête vers la voix qui approchait. Elle était presque là, par tous les dieux, et avec 3 quarts d'heure d'avance. Elle referma le couvercle du coffret avec un coup au cœur parce que le globe de cristal reprenait vie. Il s'emplissait de cette lumière rosée, mais il n'était plus temps ni de regarder, ni de rêver. Plus tard, peut-être, une fois que l'objet de l'inconvenante et tardive démangeaison libidineuse de Thorin serait reparti.
« Tu dois t'empêcher de faire un truc trop abominable à cette petite, »
s'admonesta-t-elle.
« Souviens-toi qu'elle est ici à cause de lui. Ce n'est point de ses tendrons avec un polichinelle dans le tiroir dont le coquin fait la sourde oreille quand il récrimine pour qu'il l'épouse. » Tout ça, c'est du fait de Thorin, car il n'a qu'elle en tête. Une fois que sa mocheté d'épouse, la vieille chouette s'est endormie et qu'il se prend le pis en main, commence à se traire de belle façon. C'est du fait de Thorin. Il a l'ancienne loi pour lui et du pouvoir. En outre, ce qui est dans ce coffret, ça regarde son factotum. Et si jamais Jonas apprenait que toi, tu l'as regardé, que tu l'as utilisé ?
Pour sûr, mais rien à craindre de ce côté-là. Entre-temps, possession faisait force de loi, n'est-ce pas ? Le coffret sous le bras, elle releva ses jupes de sa main libre et regagna sa masure en courant le long du sentier. Elle arrivait encore à courir quand elle y était obligée, si fait, bien que peu l'eût cru. Moisy bondissait sur ses talons, sa queue fourchue dressée, et ses pattes en surplus lui battant les flancs au clair de lune.